à la suite de nombre des autres intervenants, je voudrais remercier les trois organisatrices du colloque. Ce colloque est vraiment passionnant. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup d'être là. Donc, P12 est incoupable. Le 21 février 1963, la pièce d'un inconnu mettant en scène le pape de la Seconde Guerre mondiale, donc P12, défraye la chronique. Son auteur, allemand, Rolf Horwurth, y accuse le souverain pontife de s'être tu sur l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il n'ignorait rien de la situation désespérée dans laquelle il se trouvait. Il soutient que loin d'avoir été une autorité morale exemplaire, le souverain pontife a choisi de se taire pour ne pas affaiblir l'Allemagne, dernier rempart occidental contre le communisme, et donc seul à même de contenir le déferlement des hordes communistes en Europe. Le pape est également dépeint dans cette pièce comme un être cupide et indifférent au sort des Juifs. En octobre 1958, à la mort du pape, personne n'avait imaginé que 5 ans plus tard se produirait un tel déchaînement contre P12. Avant le vicaire, il était en effet admis que le Saint-Siège, pendant la guerre, avait respecté les missions traditionnelles de l'Église, en particulier favoriser la paix et soulager les souffrances des victimes innocentes, qu'elles soient juives ou non. Les représentations dominantes insistent également sur l'impartialité du Saint-Siège. Pendant la guerre, impartialité qui n'avait pas empêché P12 de prendre clairement parti en faveur des démocraties. En proposant une reconstruction historique de l'attitude de P12 qui prend le contre-pied de ces images très positives de pape de la paix, de pape de l'impartialité et de pape de la charité, Rolf Horwurth pose immédiatement la question de la vérité historique. Il la pose d'autant plus qu'il adjoint à sa pièce un dossier documentaire d'une 60aine de pages qui vise à justifier son propos. Et donc, à la suite du vicaire, les historiens sont sommés d'établir les faits et de les expliquer afin d'aider le lecteur, l'auditeur ou le téléspectateur à se forger sa propre opinion sur P12. Mais en proposant des interprétations antagonistes de l'attitude du Vatican pendant la guerre, leurs travaux nourrissent à leur tour dans les médias d'intenses polémiques. Ce procès des silences de P12 est relancé en 2002 avec l'adaptation cinématographique du vicaire par Costa Gavras. Donc c'est le film Amen. À la différence des années 60, les faits sont connus. Ils sont d'ailleurs bien connus, étayés par une abondante production bibliographique et globalement de qualité. Pourtant, les journalistes font à nouveau appel massivement à des historiens, universitaires pour la plupart, pour rééclairer un débat qui, 40 ans après le vicaire, demeure passionnel. Et donc, ces deux moments d'une même polémique permettent de poser un certain nombre de questions sur les relations complexes qu'entretiennent les historiens, et là en l'occurrence les historiens du silence de P12, avec les médias. Quel doit être le positionnement de l'historien face à ces demandes sociales d'expertise? Doit-il répondre favorablement à ces sollicitations médiatiques dans sa demande d'explication? En acceptant de livrer cette expertise, l'historien contribue-t-il à une certaine instrumentalisation de l'histoire par les médias ou, au contraire, fait-il avancer la connaissance scientifique? Alors, un préalable avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai choisi un corpus qui est très large, puisque j'ai examiné à la fois les principaux quotidiens et la presse généraliste dans son ensemble, et la presse confessionnelle, essentiellement juive et catholique. Donc, premier moment, le vicaire. Dès le début de cette controverse, les historiens sont donc invités à descendre dans le prétoire pour infirmer ou confirmer les thèses de Horwurth. Or, en 1963, lorsque le scandale éclate, aucun historien professionnel n'a travaillé sur cette question. Aucun chercheur académique ne peut donc prétendre livrer une expertise au nom de ses compétences scientifiques. Parce qu'aucun ne s'est aventuré sur ce terrain de l'ultra-contemporain qu'aujourd'hui on appelle l'histoire du temps présent. Seul Léon Poliakov a analysé les silences du pape en 1951 dans son Bréviaire de la haine, essentiellement d'ailleurs par la voix de son préfacier François Mauriac. En 1963, Poliakov n'a rien de mandarin. Il occupe alors un emploi de vacataire à l'EPHE et il ne peut mettre en avant comme diplôme universitaire qu'une licence de droit. Ce n'est que l'année suivante qu'il soutient sa thèse de troisième cycle en histoire et 4 ans après sa thèse d'État. Donc ses compétences ne sont guère reconnues. Et d'ailleurs, Poliakov n'est que très rarement sollicité en tant qu'expert au moment du scandale du Vicaire. C'est vers l'étranger qu'il faut se tourner pour trouver le premier historien reconnu des silences du pape. Alors il s'agit d'un jeune historien israélien, Sol Friedlander. Il est titulaire d'un doctorat en histoire et il enseigne alors à l'université de Genève. C'est d'ailleurs en travaillant sur sa thèse, sur les relations entre l'Allemagne et les États-Unis, dans les archives allemandes à Londres, qu'il a découvert une documentation sur Pie XII qu'il publie en France en octobre 1964. Donc son livre, intitulé « Pie XII et le Troisième Reich, documents », se compose essentiellement de documents diplomatiques allemands assortis d'une courte présentation de l'auteur. Et ces archives publiées confirment de fait, d'une part, que le pape a bien été informé de l'extermination des juifs et que, d'autre part, l'anticommunisme et la germanophilie du Vatican, donc deux raisons invoquées par Rorth, ont sans doute pesé dans le choix du silence du pape. C'est en tout cas ce que révèle la documentation allemande utilisée. En la quasi-absence d'historien de métier consacré par l'université, il revient donc aux journalistes, dont certains possèdent d'ailleurs une formation d'historien, de conduire l'enquête. Et dans l'histoire des silences du Pie XII, comme dans d'autres questions de l'histoire contemporaine française, en particulier la guerre d'Algérie ou la guerre d'Indochine, les journalistes jouent donc un rôle majeur dans le dévoilement du passé. Dévoilement du passé qui a été délaissé par l'histoire académique. Suite à la demande de Paul Flamand, qui est alors le directeur des éditions du Seuil, Jacques Noubécourt, journaliste au Monde, se rend ainsi dans les archives allemandes à Londres, donc les mêmes archives que Friedlander a consultées, et il publie à son retour, en juin 1964, le premier livre d'histoire sur les silences du pape. Donc ce livre, intitulé « Le vicaire et l'histoire », est un livre très bien informé, bien documenté, qui fait une large part au contexte dans lequel le pape a choisi le silence. Comme Noubécourt, de nombreux journalistes livrent dans la presse des analyses qui sont prudentes et qui sont fondées sur un travail d'enquête solide. Donc parmi d'autres, je citerai Jean-Claude Jeannemy, qui est journaliste à France Catholique, ou encore René Delisle, journaliste au Nouvel Observateur. À l'inverse, d'autres journalistes ou historiens amateurs, plus nombreux que les précédents, s'abandonnent allègrement à la polémique ou à la géographie. Les archives et les témoignages ne sont pas seulement utilisés pour établir des faits, les expliquer, ils sont surtout utilisés dans le but soit de condamner Pie XII, soit dans le but de le disculper. Donc on distribue des éloges et des blâmes. Dans le camp de l'accusation, on peut ranger le silence de Pie XII du vaticaniste italien Carlo Falconi, qui déteste d'ailleurs cordialement Pie XII. Et dans le camp de la défense, on peut citer deux ouvrages, « Non, l'Église ne s'est pas tue » de Jenő Levine, qui est un spécialiste de l'extermination des Juifs en Hongrie, et un ouvrage d'un ancien diplomate israélien qui s'appelle Pinchas Lapid et qui s'intitule « Rome et les Juifs ». Alors, pour vous donner un exemple, la thèse de Lapid est très simple. Il explique qu'on peut créditer le pape de toutes les vies juives sauvées en Europe, soit le chiffre de 860 000 personnes. Donc, chiffre totalement fantaisiste. Donc, si bien des journalistes, au moment où le scandale du vicaire éclate, en appelaient à l'histoire pour faire toute la lumière, en fait, sur la question du silence de Pie XII, force est de constater que cette première historiographie des silences du pape ne fait pas taire les passions, bien au contraire. Tout d'abord, dans la mesure où la plupart de ces travaux historiques visent d'abord soit à disculper le pape, soit à le condamner, cette première histoire du pape qui émerge à la faveur du vicaire, ne peut qu'entretenir les passions, puisque les journalistes vont puiser dans cette historiographie des arguments pour prendre la défense du pape ou au contraire pour l'accuser. Et à cet égard, il est révélateur que les contributions les plus équilibrées, qu'elles soient de journalistes ou d'historiens d'ailleurs, et les contributions les plus prudentes, celles de Nobécourt par exemple, attirent moins l'attention médiatique que les ouvrages les plus clivants, surtout lorsqu'ils sont à charge ou considérés comme tels. Et donc c'est le cas de l'ouvrage de Sol Friedländer, P12 et le Troisième Reich. Si Friedländer, en bon historien, a pris soin de souligner que ses conclusions en l'état de la documentation examinée, qui ne sont en fait que des archives allemandes, donc en l'état de cette documentation, ses conclusions sont forcément provisoires et fragiles. Tel n'est pas le cas des médias. Les médias interprètent ce livre comme une confirmation des accusations portées par Ruth dans le Vicaire. Dans le mensuel « Information juive », Arnold Mandel, journaliste à la plume acérée, explique ainsi qu'il est d'ores et déjà hors de doute que la publication de ces dossiers complémentaires, les archives du Vatican, ne viendrait rien changer à ce fait capital et archi-prouvé. Le pape Pie XII est pro-allemand et non sans quelque sentimentalité, considérait par ailleurs Hitler et le national-socialisme comme le seul rempart efficace contre le bolchevisme, à ses yeux le péril capital que l'Église devait contrer coûte que coûte. On trouve une appréciation identique dans l'Express, dans une recension non signée de l'ouvrage de Friedländer. Nous n'en sommes plus à la polémique du vicaire. Le loisir de débattre de la vraisemblance de telle ou telle suggestion de Rolf Horroth ne nous est pas laissé. Nous sommes devant un dossier constitué de documents historiques qui ne laissent pas place au doute. Devant ces preuves, souvent jugées accablantes par les médias, la culpabilité de Pie XII paraît terrible, et sans contestation possible d'ailleurs. Comment pourrait-il en être autrement à l'heure du surgissement de la mémoire de l'extermination des Juifs dans l'espace public? À la suite du procès Eichmann en 1961, l'opinion publique française et européenne a en effet découvert le caractère inouï du génocide et le silence scandaleux qui a entouré son déroulement. Devant l'énormité du crime, comment ne pas juger négativement le souverain pontife que beaucoup considèrent alors comme une autorité morale universelle? Le scandale, écrit par exemple Jean-Marie Domenac dans la revue Esprit, le scandale, c'est qu'un homme de parole se soit tu. Or, comme le montre la documentation sélectionnée par Friedländer, le pape s'est tu non parce qu'il ignorait ce qui se passait, mais il s'est tu pour des raisons bassement politiques. Dans le contexte du Concile Vatican II, donc qui débute en octobre 1962 et qui se termine en décembre 1965, dans ce contexte qui voit l'Église s'interroger sur la place et la mission de la papauté et de l'Église dans le monde, les détracteurs du pape tirent argument en fait de la reconstruction historique proposée par Friedländer pour montrer que le catholicisme politique de Pie XII, catholicisme politique selon lequel l'Église ne prend pas parti sur les régimes politiques en vigueur tant que les droits des catholiques sont respectés, eh bien, ce catholicisme politique a conduit l'Église et la papauté à une faillite morale. Pour les catholiques de gauche, pour Témoignages chrétiens, pour les études, pour la revue de l'Action populaire, comme pour la presse généraliste française, plutôt favorable aux évolutions en cours à Rome, donc c'est le cas du Monde, c'est le cas de l'Express ou du Nouvel Observateur, cette faillite donc de la papauté montre que désormais le spirituel doit primer sur le temporel. À l'image d'un Jean XXIII qui s'adresse à tous les hommes de bonne volonté, le catholicisme doit désormais se montrer soucieux de tous les hommes et non plus des seules brebis catholiques. À l'inverse, la presse catholique conservatrice et traditionnaliste, qui se structure dans les années 60, tire à boulet rouge sur le jeune historien israélien et plus encore sur les catholiques de gauche qui encensent ce travail. Dans la recension de Pie XII et le Troisième Reich, publiée dans France catholique, Jean de Fabregne ne discute pas vraiment la thèse de Friedländer. Ce qui l'intéresse, c'est de dénoncer La campagne pour salir la mémoire du grand-pape de la résistance au totalitarisme, orchestrée conjointement par le progressisme athée et le progressisme chrétien. Cette campagne calomnieuse, poursuit-il, vise ni plus ni moins à déprécier, avilir le pontife d'hier et aujourd'hui le pontife d'aujourd'hui. Comme Jean de Fabrègue, Jean Madiran, directeur de la revue intégriste Itinéraire, s'en prend davantage au jésuite Robert Bosque qui signe la recension de Freelander dans la revue d'Action Populaire qu'à l'historien israélien et à ses thèses. Deuxième moment, donc on le voit, cette production historiographique suscite d'intenses polémiques dans les médias. Deuxième moment, Amen. En 2002, Amen, l'adaptation donc cinématographique du Vicaire par Costa Gavras, relance les procès du Séance de Pie XII dans un contexte historiographique très différent de celui du Vicaire. Au début des années 2000, le champ de la question de l'attitude du Vatican a été amplement labouré par des historiens européens, américains et israéliens, en majorité universitaires cette fois-ci. Leurs travaux, qui s'appuient à la fois sur une documentation allemande, britannique et américaine, et à la fois sur une documentation diplomatique vaticane, puisque le Saint-Siège, le Vatican, a publié une partie de ses archives entre 1965 et 1981. Donc leurs travaux sont souvent des travaux d'érudition, et ils sont rarement lus en dehors de la sphère académique. De cette abondante production émerge un relatif consensus, plutôt critique, sur la question du silence du pape. Donc on reconnaît que le pape a adopté une grande réserve pendant la guerre, ce qui ne l'a pas empêché d'intervenir diplomatiquement et de distribuer des secours envers les juifs. En revanche, il n'y a pas véritablement de consensus sur les raisons qui expliquent en fait ce silence. Donc, certains historiens mettent en avant la crainte de représailles qui aurait conduit le pape à choisir la voie diplomatique et donc à se taire. D'autres insistent sur son espoir de contribuer à la paix, tandis que d'autres, enfin, retiennent toujours le poids du communisme dans le choix de cette grande réserve. Donc cette production discrètement critique sur la question du silence du pape ne fait pas disparaître totalement une production polémique et apologétique. Alors l'exemple le plus connu de la production polémique est le livre de John Cornwell qui est publié en 1999 par exemple. Et donc c'est en se fondant sur cette abondante bibliographie qui est disponible que Costa Gavras a coécrit le scénario d'Amen avec Jean-Claude Grumberg. Costa Gavras précise avoir écarté les livres les plus polémiques et les livres les plus apologétiques. À la différence de Horwurt, il a d'ailleurs refusé, il a refusé de tenir compte des suggestions, hein. Il a décidé que le pape parlerait peu et qu'il ne prononcerait que des paroles qu'il avait effectivement prononcées en réalité. De ces choix résulte un film qui est beaucoup plus équilibré que la pièce de théâtre dont il s'inspire, et ce film sort sur les écrans le 27 février 2002. À nouveau et immédiatement, les historiens sont convoqués par les médias pour établir si Costa Gavras a, oui ou non, respecté la vérité historique. À la différence des années 60, on ne leur demande pas de dévoiler le passé ou de lever un tabou, mais plutôt de proposer à l'opinion publique une mise en perspective et une hiérarchisation de la masse d'informations souvent contradictoires qui leur est livrée dans les colonnes de la presse, à la radio ou à la télévision. Et en héritier d'une tradition désormais bien ancrée de critique en dehors du monde académique, une quinzaine d'historiens universitaires répondent très favorablement à ces sollicitations médiatiques. Ils considèrent sans doute qu'il est de leur devoir ou de leur responsabilité éthique, civique, scientifique, d'informer le public dans une question qui, 40 ans après le Vicaire, demeure passionnelle. Alors, certains de ces chercheurs sont des habitués des plateaux télé, des radios, voire des tribunaux. Donc, on a Jean-Pierre Azéma, Michel Vinoc ou René Raymond. D'autres sont des spécialistes du fait religieux ou de l'histoire de l'Église, souvent moins connus. Jean-Marie Mayer, qui est connu, hein. Yves-Marie Hiller, longtemps professeur à Lille. On a également Philippe Levillain, un historien de la papauté, et l'historien de l'Université pontificale du Latran, Philippe Chenot. Deux historiens étrangers sont sollicités. Michael Fayer, un historien américain qui a publié en 2001 « L'Église et les nazis », et l'historien Robert Wistrich. D'origine polonaise, ce dernier a enseigné à l'Université juive contemporaine à Londres et à l'Université hébraïque de Jérusalem. Il est surtout connu pour avoir participé à une éphémère commission judéo-catholique qui était censée faire la lumière sur le cas Pie XII. En fait, ce fut un fiasco total. Enfin, il faut signaler les interventions de spécialistes du nazisme et du fascisme. Donc, c'est le cas d'Edouard Husson, de Marianne Matar Bonucci, et celle d'Yves Brûlé et d'Annie Lacroix-Rie, l'un et l'autre spécialistes des relations internationales. Au final, seuls 4 universitaires peuvent réellement être considérés comme des spécialistes de la question du silence du pape. Annie Lacroix-Rie, qui a publié en 1996 « Le Vatican, l'Europe et le Reich, de la Première Guerre mondiale à la guerre froide », Michael Fayer, dont j'ai cité l'ouvrage, Jean-Marie Mayer, qui est l'auteur de la synthèse sur l'Église dans la Seconde Guerre mondiale publiée dans l'histoire du christianisme, et Philippe Chenot, qui travaille déjà sur sa biographie depuis 12, qu'il publie l'année suivante. Donc c'est également un bon connaisseur du pape. Aucun de ces historiens ne livre un avis identique sur le film et donc un avis identique sur Pie XII. En fonction de leur propre reconstruction narrative sur la question des silences du pape et en fonction également de l'usage qu'ils comptent faire de la question des silences de Pie XII, les médias font donc appel à l'un ou à l'autre. Deux quotidiens, Le Figaro et La Croix, et la presse catholique conservatrice, France catholique, famille chrétienne notamment, prennent ainsi fait et cause pour Pie XII. Ce positionnement va à l'encontre de l'opinion dominante sur le pape, selon laquelle le souverain pontife n'a rien dit et n'a rien fait pour les juifs, et à ce titre, il est au mieux jugé responsable, au pire coupable du génocide. Alors que l'extermination des juifs est devenue centrale dans l'espace public et dans les représentations collectives contemporaines, l'impartialité du Saint-Siège pendant la guerre n'est plus comprise et encore moins acceptée par l'opinion publique que traduit en partie les médias. La mémoire a donc pris le pas sur l'histoire. Il est donc demandé à ces experts de rétablir la vérité, de dire ce qui a été et non ce qui aurait dû être ou ce qui aurait pu être. Autrement dit, on leur demande de traquer l'erreur, de débusquer l'anachronisme et d'établir ce qui relève de la fiction et ce qui relève de l'histoire. Jacques Nobécourt, que l'on retrouve 40 ans après, dresse ainsi dans La Croix l'inventaire des faits attestés et des faits inventés. De son côté, Edouard Husson, spécialiste de la Gestapo et maître de conférences en histoire contemporaine à Paris 4, juge que le film tronque la réalité et qu'on nage en plein roman. Si aucun de ces experts favorables à Pie XII ne fait mystère de son adhésion au catholicisme, c'est en tant qu'historien et non en tant que catholique qu'il critique le film de Costa Gavras. Non sans un certain agacement d'ailleurs. Dans Le Figaro, Yves-Marie Hiller s'indigne que l'on puisse encore affirmer que Pie XII craignait davantage Staline qu'Hitler. Édouard Husson laisse également percer une certaine irritation lorsqu'il explique, toujours dans Le Figaro, que durant la guerre, l'Europe était sous la botte du totalitarisme. Les informations sur les camps de concentration n'étaient pas données au journal télévisé de 20 heures. Vouloir le faire croire revient à abuser du public. invité de l'émission première édition sur France Culture, le même Édouard Husson, précise que si les informations circulent assez rapidement sur les Einsatzgruppen, ce n'est cependant que dans le courant de l'année 1943 que l'on comprend à Rome ce qui se passe. Le Figaro utilise cette défense depuis 12 par les historiens, donc des historiens académiques, dont les compétences ne peuvent pas être mises en cause, pour apporter la preuve que les accusations de Costa-Gavras participent d'une cabale contre Pie XII et contre l'Église, sur laquelle le cotillon de droite est revenu à plusieurs reprises depuis le milieu des années 90. Le Figaro se fait ici l'écho du sentiment éprouvé par une partie de son lectorat catholique, qui perçoit de plus en plus les critiques contre l'Église comme une mise en accusation systématique de leur foi et de leur Église. Cette mise en accusation a d'ailleurs été dénoncée en 2000 par une personnalité aussi modérée que René Raymond dans un court essai intitulé « Le christianisme en accusation » qui avait d'ailleurs étonné un petit peu les lecteurs habituels de l'historien. Force est de constater que la presse favorable à Pacelli est très minoritaire. La majorité des médias généralistes et confessionnels défendent en effet une vision de Pacelli qui est conforme à la mémoire dominante et convoque des experts qui vont dans leur sens. Alors parmi ces experts, une place de choix est accordée à l'historienne communiste de Paris 7, Annie Lacroiry. Elle publie en effet une tribune dans Le Monde, un long article dans Le Monde 2, donc en février et en mars 2002. Témoignage chrétien la sollicite, ainsi que France Culture et la chaîne catholique KTO en tant qu'expert à charge de la question des sciences de Pie XII. Elle est également l'expert retenu par le réseau Voltaire pour donner son avis sur le film Amen et donc sur les sciences de Pie XII. Alors cette forte présence médiatique d'Annie Lacroiry interroge, car son livre, dans lequel elle évoque les silences, d'ailleurs rapidement la question des silences du pape, ne figure pas parmi les travaux les plus solides publiés sur la question. Loin s'en faut. Alors la principale faiblesse de ce livre tient au fait que son auteur refuse de prendre en considération les archives vaticanes, qui ont été publiées donc entre 1965 et 1981, il y a 11 volumes de documents diplomatiques du Saint-Siège, eh bien, elle refuse de prendre en considération ces archives au motif que seuls les documents à décharge auraient été publiés par Rome, les documents les plus compromettants auraient été détruits. Donc, autrement dit, elle se refuse à croiser les sources, ce qui est pourtant une des règles fondamentales du métier d'historien. Annie Lacroiry défend également une position beaucoup plus extrême que Costa-Gavras, puisqu'elle considère que Pie XII était clairement antisémite, position que plus aucun historien sérieux de la question ne retient aujourd'hui. Alors, ces propos polémiques sur le silence de Pie XII s'inscrivent dans une stratégie de scandale dont l'historienne s'est fait une spécialité depuis le milieu des années 90, où régulièrement elle dénonce l'omerta dont seraient victimes ses travaux et elle s'indigne aussi du peu de considération que lui témoignent ses pairs, en particulier les historiens du fait religieux, dont elle critique l'influence excessive à l'université. Et elle met cet ostracisme sur le compte de ses convictions communistes. Alors, si l'on comprend pourquoi le réseau Voltaire anticlérical fait appel à Annie Lacroiry, le crédit que Le Monde ou Témoignage chrétien lui apporte est plus surprenant. C'est d'autant plus surprenant que ces deux journaux disposent de très bons connaisseurs du catholicisme et de la question des silences de Pie XII, en particulier au Monde, Henri Tin, qui est vaticaniste et le spécialiste des questions religieuses au quotidien. Alors, pourquoi faire appel à cette historienne controversée, en 2002 ? Il est probable que la configuration religieuse du pontificat finissant de Jean-Paul II, où l'on voit les courants conservateurs prendre l'ascendant à Rome et dans l'Église de France, explique ce recours à l'historienne. Sur fond de rumeurs persistantes autour de la béatification de Pie XII, les médias catholiques classés à gauche et la presse favorable aux évolutions impulsées par Vatican II, donc c'est le cas du Monde, utilisent cette expertise historique critique pour faire part de leurs doutes et de leurs inquiétudes sur l'évolution de l'Église et pour tenter de conjurer tour au tour à cette ecclésiologie politique qui serait incarnée par Pie XII et qui aurait été totalement dégagée en fait par Vatican II. Donc dans les années 2000 comme dans les années 60, la figure de Pie XII permet de se situer sur l'échiquier politique catholique, avec d'un côté les partisans de Pie XII plutôt à droite et les adversaires plutôt à gauche. Et là, j'ai 3 minutes. Alors, je voulais évoquer la question des archives, mais ça sera peut-être évoqué au cours de la discussion. Alors, la comparaison entre ces deux moments d'une même polémique permet de dresser quelques constats rapides. Le vicaire a fixé le paysage historiographique et mémoriel de la question des silences de Pie XII. Et en cela, il a, à mon sens, il a miné le débat. Privilégier telle ou telle interprétation pour un historien conduit, de fait, à être immédiatement classé soit comme un partisan du peuple, soit comme un de ses adversaires par les médias. Et avec leur pleine approbation ou à leur corps défendant parfois, de manière volontaire ou involontaire, ces spécialistes sont donc réquisitionnés en tant que juges d'instruction du silence du pape et on leur demande de se prononcer sur la responsabilité individuelle du pape. Donc ce n'est pas franchement leur travail, mais il n'empêche que c'est ce qu'on attend. Alors, comment sortir de cette querelle qui est quand même récurrente depuis un demi-siècle? Alors je vais terminer sur un vœu pieux, sur le vœu pieux d'une bonne historienne. Eh bien, je suis convaincue qu'il faudrait que l'Église, enfin, accepte d'ouvrir les archives, toutes les archives du pontificat de Pie XII, qui sont désormais classées, et qui n'attendent aujourd'hui que l'aval du pape François pour être rendues accessibles aux historiens. Et peut-être, enfin, on arriverait à sortir de ce débat qui est quand même empoisonné par toutes ces passions historiques et médiatiques. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup Muriel Guittin-Audin. Alors, pour cette passionnante communication, parce qu'elle a l'intérêt de détacher la prise en compte du débat des faits eux-mêmes. Nous sommes partout dans le deuxième degré de juridiction, je dirais, par rapport aux polémiques et à l'instruction que vous évoquez, mais aussi par le fait que nous avons évoqué la figure de l'expert en médias qui est sollicité dans des débats sur le fait religieux et l'information religieuse, mais là c'est au double degré dans la mesure où ce sont les historiens qui sont sollicités en tant qu'experts sur des affaires que le traitement médiatique a déjà en partie tranché. Vous avez montré comment finalement l'image de Pie XII, peu à peu engendrée par la pièce Le Vicaire, s'est imposée comme une donnée à réfuter alors qu'elle n'était elle-même pas fondée sur des documents historiques. Alors on pourrait aller solliciter dans les étages des historiens qui ont participé à d'autres débats du même type sur Vichy par exemple, oui. Je pensais à Henri Rousseau, mais là nous sommes plus exactement dans le domaine qui nous mobilise ici, nous ne sommes que par ricochet, si j'ose dire. Alors peut-être que les questions vont nous permettre de préciser ce point. Oui.
Merci beaucoup. Je voulais signaler deux choses. Dans le journal du théologien Yves Congar, dans le journal du Concile, il y a un moment où il fait état de réflexions stratégiques sur comment réagir au scandale du vicaire. Et il montre comment, au Vatican, on essaie de contrer cette question, de la développer, diffuser les archives, etc. Il me semble...
À cet égard, c'est Paul VI qui prend la décision de rendre accessible une partie de la documentation vaticane, justement pour justifier l'attitude du pape pendant la guerre.
Ce dont parle Congar, effectivement.
Et d'introduire le procès en béatification de Pie XII. Parce que c'est Paul VI qui a introduit le procès en béatification de Pie XII.
Dans les choses que j'ai pu regarder autour de ça, j'ai vu aussi qu'il y avait une thèse qui suspectait que Orhout était instrumenté par le KGB. Oui. Il a ensuite eu un destin lui-même négationniste. Il est soutenu par Racinier dans l'opération Vicaire. J'ai pas la date. Enfin,
bon. 65.
En 65, c'est ça. Donc oui, il y a aussi cette dimension-là.
Alors, O'Rourke a tenu des propos négationnistes, effectivement, c'était en 2005. Il s'en est excusé ensuite. Il lui a fallu quelques mois quand même pour s'excuser. Après cette histoire de O'Rourke manipulée par les communistes, alors c'est une version qui a été en France pour le moins diffusée par le père Blé, qui est un des éditeurs des actes et documents du Saint-Siège pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1997, je crois, lorsqu'il en parle pour la première fois, il dit qu'il n'a aucun document pour étayer cette thèse. Depuis, il y aurait, alors moi, j'ai pas vu, hein. Donc, il y aurait le témoignage d'un colonel, qui est un ancien espion, je crois, de la police politique, un ancien espion roumain, qui a affirmé cela. Alors moi, et là-dessus, on rajoute que O'Rourke était est-allemand, ce qu'il n'est pas, il est ouest-allemand, il est né en RFA. Voilà. Bon, alors moi, ça m'étonne un petit peu. Enfin, je suis sceptique parce que, d'une part, on a uniquement pour l'instant ce témoignage de ce Roumain. D'autre part, la pièce du vicaire, on ne peut pas la réduire à une manipulation des communistes. Derrière, il y a quand même autre chose. Alors, peut-être que les communistes ont manipulé O'Rourke, mais l'ampleur du scandale qu'elle provoque, parce que le scandale, il n'est pas qu'en France, il est aussi en Europe, dans toute l'Europe, aux États-Unis, elle va bien au-delà de cette soi-disant manipulation par les communistes.
Bien sûr. Le deuxième point que je voulais évoquer rapidement, c'est des interprétations qui disent que qui voit dans le silence du pape une parole. Et j'étais tombé sur il y a quelques années sur quelque chose d'intéressant dans la revue dominicaine, une revue québécoise, en 1943, sous la plume de Monseigneur Bruno de Solages, qui disait que le pape se tait pour que ses paroles s'entendent mieux. Et que ces silences est une façon de faire héberger ses paroles précédentes, et que par ailleurs les autres papes parlent à travers lui. Donc on a une position qui est intéressante, qui est de dire que ce silence est parole, mais est une parole qu'il n'est pas entendue. Bon, j'ai l'extrait, je vous lis pas, ça peut être long.
Oui,
mais...
je crois que Bruno de Solages fait part quand même aussi d'un certain trouble devant le silence du pape pendant la guerre. Moi, j'ai retrouvé une autre référence. Oui.
Oui, je vous remercie. J'ai trouvé passionnante votre contribution parce que je crois qu'à travers une étude de cas, elle nous apporte une réflexion beaucoup plus profonde sur la position du chercheur par rapport aux médias. La question, c'est que les médias tendent volontairement ou pas à montrer des situations en deux camps, où il y a le pour, il y a le contre. Et je crois que toute la difficulté du chercheur, par rapport à ce débat comme par rapport à tout autre, c'est quand il n'est pas partisan lui-même, parce que ça arrive, vous en avez donné des exemples, mais c'est d'affirmer une position qui est au-dessus de la mêlée, et ça va très loin, parce que ça peut aller jusque sur un plateau de télévision, face à une disposition des intervenants qui montre déjà deux camps, et je crois que c'est vraiment la capacité du chercheur. Il n'a pas le complet contrôle de la situation, mais a refusé d'être en quelque sorte utilisé par les médias dans cette situation, dans ces mises en scène de polarisation. Parce que finalement, qu'est-ce que nous apportons en général? C'est de montrer que la réalité est plus compliquée que ces approches très simplificatrices. Alors, comment faire? Parce qu'effectivement, nous n'avons pas le contrôle, mais je crois que nous pouvons, dans certains cas, dire, par exemple, justement, refuser d'être sur un plateau de télévision qui montrerait déjà deux camps face à face, parce que c'est symboliquement quelque chose qui nous place déjà dans une situation fausse, et c'est probablement aussi apporter des éclairages qui montrent une originalité tout en refusant, quand c'est possible, cette approche dichotomique. Et dans certains cas, c'est possible, ça ne l'est pas toujours, mais je crois que votre étude de cas est remarquablement révélatrice sur le chercheur, à la fois intervenant, expert sollicité, mais expert utilisé, expert récupéré. Et je pense que, notamment pour les doctorants qui nous invitent, c'est extrêmement éclairant. Un grand merci.
Les deux dernières questions, très rapidement, parce que nous allons devoir passer.
Est-ce que vous avez rencontré Costa Gavras?
Pas du tout.
Pas du tout. Et sinon, l'hypothèse que, en fait, le pape agissait comme ça pour protéger les ecclésiastiques allemands, qui, sinon, qui auraient été tués, les risques de revanche des nazis sur les prêtres sur le territoire allemand.
Alors, là, on est dans l'histoire, on n'est plus dans la réception du silence du pape. Cette hypothèse a été formulée par des historiens et oui, par exemple, il se tait sur la Pologne dès le début de la guerre, très certainement par peur. Alors là, il ne s'agit pas des catholiques allemands, mais il a peur qu'une dénonciation aggrave les persécutions des nazis sur les catholiques polonais.
Oui, mais enfin, Pie XI parle sur le cas des handicapés mentaux que les nazis commencent à exterminer, et il pouvait tout aussi bien craindre une riposte des nazis en 1938. Ça, c'est... Jean-Philippe.
Oui, au milieu des années 90 paraît l'ouvrage de Suchecki et Paslek sur l'encyclique cachée de Pie XI. Donc ce texte sur l'unité du genre humain qui condamnait au nom de la morale chrétienne l'antisémitisme nazi, encyclique qui ne parut pas, le pape Pie XI était déjà très affaibli à ce moment-là. Et donc je me demandais si ces révélations-là, qui précèdent de quelques années celles sur le pape Pie XII, ont contribué dans la presse à polariser quelque peu en mettant... en perspective un pape humaniste et un pape qui l'aurait moins été.
Alors tout à fait, ce livre est compris comme une nouvelle pièce du procès qui est toujours en cours, hein, du silence du pape. Et c'est à partir de ce livre, donc on est en 95, qu'il y a toute une production à nouveau. Je pense que l'intérêt pour la question du silence du pape se réveille effectivement à partir de cet ouvrage, et notamment parce qu'il met bien en évidence ce qui était connu par les catholiques, y compris par les contemporains de Pie XII. Donc il met bien en évidence la différence entre la personnalité de Pie XI, la personnalité de Pie XII, et il met également en évidence tous les débats qui a eu lieu au Vatican sur la manière de réagir face à Hitler. Il y avait en gros deux écoles, hein, ceux qui disaient qu'il fallait affronter Hitler, un peu sur le modèle de Pie XI, et ceux qui penchaient plutôt sur une approche plus pragmatique, moins frontale avec le nazisme.
Dernière question ?
Très rapide.
Sophie Gherardi, c'est Frelco. Moi, je suis toujours frappée dans ce débat sur le fait qu'on s'interroge très peu sur la nature des médias pendant la guerre. C'est-à-dire que le pape n'a pas parlé. Eût-il parlé ? Comment cette aurait pu être relayé. Je pense qu'il y a peu d'études, mais peut-être que je me trompe sur cette question-là.
Alors, peu d'études, oui, sans doute. Comment pouvait-il parler ? Ben, il avait Radio Vatican, hein. C'est quand même le meilleur... c'était le média à sa disposition pour... Comment cette parole a été reçue ?
Aurait-elle été
relayée ? Ou plutôt... Oui, mais alors là, ça dépend un petit peu de la situation, ça dépend des pays. Il est évident qu'en Allemagne, c'était plus compliqué de relayer la parole du pape. En France, il me semble que les radiomessages de Pie XII sont systématiquement censurés.
Alors, pas toujours. Non, ils sont repris dans la presse de la résistance et assez
largement. Alors dans la presse de la dans la presse de la résistance, oui, dans la presse autorisée, non.
Pardon, mais là nous glissons vers le débat historique, donc nous allons devoir interrompre pour rattacher votre passionnante contribution à nos débats proprement dit. Je crois que le fond du problème qui est posé, c'est aussi celui de la réception du travail des médias. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un cadre est donné à une opinion, comment la réception d'apports nouveaux peut engendrer une remise en question chez l'auditeur ou le lecteur de l'opinion qu'il s'est déjà forgée préalablement. Voilà, c'est tout ce travail qui est très typique à propos de la pièce Le Vicaire. Au fond, depuis 40 ans, et c'est ce que vous nous avez montré, historien pour ou contre, essaie de démonter les prérequis de ce qui a été établi par cette vision depuis 12, et nous n'y sommes toujours pas arrivés. Et sur les archives du Vatican, si je peux me permettre d'un mot pour y avoir travaillé, je suis absolument persuadé que l'ouverture des archives n'apportera rien de nouveau là-dessus. Voilà, parce que tout a déjà été reconstitué par la périphérie. Ah ben peut-être. Bien, alors nous passons à un sujet plus proche chronologiquement, encore que le vôtre l'était également, sur la crise des caricatures de Mahomet, à Libération et au Devoir, images, représentations et mise en valeur de l'information. Donc Léliane Vert est doctorante à l'EHESS et travaille également à l'Université du Québec à Montréal.
Alors bonjour. Bon, si en l'an 2000, Pierre Bréchon se désolait du peu de travaux consacrés à l'étude des rapports entre les médias et la religion, cette question s'est aujourd'hui largement démocratisée, notamment en lien avec celle de la liberté d'expression, en témoigne l'existence de ce colloque. J'aimerais d'ailleurs remercier les trois organisatrices de ce colloque qui me semblent d'une très grande pertinence. Alors en France comme au Québec, la pluralité religieuse a engendré des aménagements largement relayés par les médias, avec comme principaux intérêts l'atténuation des discriminations religieuses et la conservation de la paix sociale. Or, jusqu'à présent, et même si dans le domaine des sciences sociales, la comparaison entre la France et le Québec est devenue une quasi-tradition, il reste que la mise en parallèle des presses françaises et québécoises est un domaine de recherche relativement peu exploité. En 2002, Gilles Gauthier se désolait à ce propos de l'absence d'études davantage systématiques et faisait remarquer qu'il s'agissait d'un terrain, je cite, « inexploré », du moins de manière méthodique. C'est pourquoi nous nous sommes penchés à l'occasion d'un ouvrage sur la représentation de la religion et de l'islam dans les journaux français et québécois, Libération et Le Devoir, durant ce que l'on pointe aujourd'hui comme la crise des caricatures de Mahomet. Alors, on en a parlé brièvement hier, mais petit rappel, en septembre 2005, 12 caricatures représentant le prophète de l'islam sont publiées par le quotidien conservatoire danois Jyllands Posten. Cette publication engendre assez rapidement des réactions de désapprobation de la part de différents groupes musulmans et islamistes. Les médias du monde entier s'emparent de cette affaire qui va se transformer rapidement en débat virulent sur la liberté d'expression et le choc des civilisations. Alors que la crise des caricatures prend une ampleur importante en Europe, notamment en raison du procès lancé par la mosquée de Paris à l'hebdomadaire français Charlie Hebdo, l'Amérique du Nord semble rester plus calme ou peut-être davantage sur ses gardes. C'est cette impression qui est à l'origine de notre travail. Mettre côte à côte deux quotidiens francophones représentatifs de deux sociétés au fonctionnement distinct m'est apparu comme un moyen de pointer les différences et les convergences du traitement de cette crise. Au-delà, il s'agissait de s'intéresser à la représentation faite de la religion et de l'islam dans des médias de France et du Québec. Donc le choix du corpus s'est porté sur deux journaux francophones équivalents du point de vue politique et de leur lectorat. Alors que tous les opposent, pourtant, dès le début, l'un porte les valeurs de l'extrême gauche, l'autre celle de la droite, sectaire et catholique, ils constituent tous deux, de nos jours, des journaux de référence, on en a parlé hier également, dans leurs provinces ou pays respectifs. Au cœur des bouleversements et de l'évolution de la société qu'ils accompagnent, ils sont liés, chacun à leur manière, à une révolution sociale, à l'origine de transformation des mentalités. journaux appréciés des intellectuels, ils ont été témoins, parfois acteurs, des changements de la France et du Québec. Le journaliste et écrivain Bernard Lallement reconnaît ainsi que Libé est devenue au fil du temps une institution véritable qui confine au mythe. Et de son côté, Robert Comeau, historien québécois, présente Le Devoir comme, et je cite, « une institution authentique catalyseur de l'orientation à donner à l'évolution du Québec ». Donc, dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, je me suis penchée sur la mise en valeur de l'information à travers la photographie de presse et la présentation des auteurs des articles. Donc, on en a également un petit peu parlé tout à l'heure. De par la stratégie testimoniale qu'elle met en œuvre, la photographie de presse se veut d'emblée la preuve par l'image d'une information puisée dans le réel. Mais elle rend également compte des choix et de la sensibilité du photographe. Forte de ce constat, qui est largement commenté par Roland Barthes, par Lizek Brokowski ou par Bruno David, entre autres, je me suis penchée sur la représentation de la religion dans la photographie de presse. Au cœur de mon analyse, les images et les photographies liées à la crise des caricatures de Mahomet et qui ont donc été publiées par Libération et Le Devoir durant une période très stricte, le mois de février 2006. L'analyse était d'autant plus intéressante à envisager qu'au cours de la période choisie, 30 photographies ont été publiées par chacun des journaux en parallèle aux articles et en guise d'illustration de ces articles. Cela me permettait donc d'espérer des premiers résultats significatifs sur les distinctions et sur les ressemblances éventuelles entre les deux quotidiens. Donc, délaissant les portraits ou les photos extraites des archives, j'ai privilégié pour cette présentation des photographies prises sur le terrain, soit 19 pour Libération et 26 pour Le Devoir. Dans tous les cas, il s'agit de photographies qui ont été choisies par le quotidien pour interpeller le regard du lecteur, voire le choquer, en le confrontant à du phénoménal. Compte tenu de ce qu'elle montre et de ce qu'elle représente, elle fonctionne également comme un indicateur important de la politique du journal. Ainsi, nous attacher aux thématiques récurrentes, voire aux stéréotypes, en nous concentrant sur la dimension indicielle du signe photographique, était susceptible de fournir un aperçu des caractéristiques communes ou distinctes des deux quotidiens sur la représentation de la violence, dans un premier temps, et de la religion, dans un second. Alors, les analyses thématiques réalisées à partir de l'observation des photographies révèlent, il est vrai, un penchant pour la représentation d'une certaine forme de violence. Alors, on la repère à travers le geste ou la mise en scène de manifestations de protestation, car à Libération comme au Devoir, l'élément le plus récurrent est celui du regroupement. Sur les 19 photographies de Libération, 13 mettent en scène un groupe de personnes, des manifestants ou une foule. Sur ces 13 photographies, 11 sont des manifestations où le mécontentement est très marqué. Et c'est la colère des musulmans choqués par la publication des caricatures que le journal Libération décide donc de mettre en avant. Au Devoir, l'élément manifestation n'apparaît qu'à 9 reprises sur les 26 photographies, mais il constitue là encore l'élément le plus important en termes d'occurrence sur les photographies sélectionnées. On note que 4 de ces photographies mettent en scène des affiches ou des pancartes lisibles par le lecteur. J'ai entouré les photographies du Devoir en bleu et celles de Libération en rouge. Alors, ici, on peut voir que le journal Le Devoir n'hésite pas à donner à voir de quoi lire. Et l'iconotexte, comme fusion de texte dans l'image, évoque la colère, voire la haine, éprouvée par les musulmans. Le mot « insulte » est utilisé à 2 reprises. La pancarte de cette photo s'apparente à un appel au meurtre, qui est entendu, hélas, à plusieurs reprises depuis quelques mois. « Anéantissez ceux qui insultent l'islam ». Certains gestes et signes expressifs sont également récurrents. Plus de la moitié des photographies de Libération de l'époque, c'est-à-dire 52,6% pour être précise, présentent des bras levés, des bras tendus ou dirigés vers le ciel, contre 38,4% au Devoir, pour un total de 20 photographies pour les deux journaux réunis. Selon le contexte, cependant, ce geste va détenir 4 significations. La première s'applique à 8 des 20 photographies qui exhibent des poings ou des bras levés dans le cadre d'une manifestation, d'un discours ou d'un appel. Dans ce cas, le geste fait office de revendication. Le bras levé condamne la publication des caricatures. Il dénonce un scandale. La seconde signification concerne des bras levés qui frappent ou qui ont frappé. À ce moment, ils indiquent l'agressivité, la violence. Un troisième sens découle des bras écartés et des mains levées qui traduisent des gestes d'explication, de discussion. Le mouvement du bras indique alors qu'il y a discours. La personne photographiée ici va parler avec les mains. Donc on a une logique, ici dans une logique explicative ou contemplative, il s'agit d'un imam au cours d'un prêche, lors d'un discours ou même dans la rue. La dernière fonction intéresse exclusivement le quotidien Le Devoir et quatre de ses photographies. Ces dernières véhiculent une toute autre signification. Les bras tendus ont pour fonction de mettre en scène la religion. Trois photographies montrent des femmes et un enfant qui brandissent le Coran ou une affiche condamnant l'insulte faite aux musulmans. Cet effet de mise en scène participe de la visée de captation présentée par Patrick Charaudeau comme un enjeu de dramatisation. Ces bras tendus contribuent à la magnification et à la dramatisation du phénomène religieux. La photographie de gauche représente ainsi une femme éplorée, implorante, bras tendus vers le ciel en signe de supplication. Ce geste, lourd de connotation, rappelle le rituel de la prière. L'utilisation de l'image de la femme n'est pas anodine. Sur la totalité des photographies publiées par le journal Le Devoir, 8 d'entre elles mettent en scène des femmes voilées et des enfants. La majorité de ces photographies, on le voit ici, sont des portraits. Ils utilisent l'image de la femme ou de l'enfant comme symbole, comme stéréotype, dans des situations qui sont lourdement connotées. On a une photographie qui met en scène une femme en pleurs, une autre un enfant en prière, une troisième une femme suppliant le ciel. Autant de situations en apparence inoffensives, mais qui jouent sur une certaine forme de pathos. Ainsi, les bras tendus présents dans les photographies des journaux Libération et Le Devoir ne constituent pas un message unique. Un même geste peut être polysémique et véhiculer différents messages ou informations. Il constitue à la fois une invitation au dialogue, un geste violent ou une allusion au rituel religieux. Le média s'empare d'un instant de la réalité et en faisant le choix de le figer, l'érige en symbole. Trois photographies illustrent cet état de fait. Alors elles sont caractéristiques de cette idée de symbolisation du geste et on relève un certain nombre de points communs. Alors tout d'abord, il s'agit à peu de choses près du même geste vecteur de l'acte violent, le bras qui s'apprête à lancer ou qui vient de lancer un objet. Ensuite, certains détails récurrents retiennent l'attention. Par le cadre ou le cadrage, chacune des photographies isole de la foule un homme en particulier. Cet homme est sans visage ou presque, ce qui lui confère un anonymat d'autant plus important puisqu'on ne saurait le reconnaître. Il disparaît derrière le geste qui l'emporte désormais sur l'individu. L'homme ne laisse transparaître que ce qu'il a de violent. Ce faisant, et en ce qu'il est cet amplificateur d'existence, la photographie transforme ces individus en archétypes. Déshumanisés, ils perdent leur individualité pour devenir les vecteurs d'un geste saisi dans son moment le plus dramatique, l'instant décisif. Le choix du moment photographié ne peut être anodin, en ce qu'il est ce que Cartier-Bresson identifiait comme l'instant le plus, je cite, l'instant le plus significatif d'une réalité donnée. Alors on le voit bien ici, deux journaux différents, de deux pays différents, publient à trois reprises la quasi même photographie. Le spéculum photographique, dans le sens d'empreinte lumineuse et donc de photographie, devient alors symbole, devient spectacle, ce qui automatiquement le libère de sa dimension objective, lui faisant perdre sa substance indicielle. Alors on peut tirer deux conclusions de cette observation. En premier lieu, qu'il existe bien une manipulation de l'information et une mise en scène de la violence par le biais d'une esthétisation du support photographique, l'instant décisif établissant un rapport de séduction avec le lecteur. En second lieu, que cette mise en scène de la violence par l'image conduit à la naissance d'un symbole réutilisable et identifiable dans deux pays distincts. On le retrouve à la fois dans Libération en France et dans Le Devoir au Québec. Pour sa part, la religion, et on l'a vu, est directement représentée, saisie par l'image et proposée au lecteur du Devoir, que ce soit par le biais des Écritures saintes ou par la mise en scène du rituel religieux, tel que la prière ou la supplication. Alors, si j'ai pu noter lors de mon analyse que Libération met en scène des objets de la vie musulmane, tels la chéchia ou le voile, le quotidien français met malgré tout en avant l'aspect polémique de la question de la liberté d'expression, tandis que Le Devoir favorise la dimension religieuse de la crise. Partant, il s'avère intéressant de se pencher sur quelques photographies emblématiques des deux journaux et de tester notre hypothèse. Alors, ces deux photographies éveillent l'intérêt pour plusieurs raisons. Elles semblent toutes deux appartenir à ce que nous avons nommé, désigné l'instant décisif. Elles ont saisi le moment culminant des deux gestes, le climax du mouvement. Autre fait notable, alors qu'il s'agit de photographies de presse, celle de Libération et même une photo placée en une du journal, on remarque que l'information transmise par l'image est quasiment nulle. La première ne nous montre qu'un doigt tendu vers le ciel, hors contexte, et avec comme seul point de repère visuel la couleur de cette main légèrement basanée. Bon. La seconde photographie, elle, est plus riche en informations, mais demeure néanmoins énigmatique. Un jeune garçon représenté, là encore, hors contexte et sans aucun signe particulier, brandit un gigantesque livre, qu'on aimerait certes croire être le Coran, mais là encore, comment savoir ? Objectivement, et sur le plan visuel, si on les observe sans aucune interférence textuelle, ces photographies ne disent absolument rien. Aucune manifestation n'est visible, ni aucun drapeau, comme ça peut être le cas dans d'autres photographies, qui nous permettraient alors d'associer l'événement à un pays ou à une situation de crise quelconque. On pourrait même penser que ces deux photographies ont été prises dans une salle de classe. Aussi, si ces images ne nous informent pas, comme la plupart des photographies documentaires, on peut considérer avoir affaire à deux photographies émotives. De fait, leur intérêt ne demeure pas dans ce qu'elles montrent, mais dans ce qu'elles représentent. Le recours au stéréotype de l'enfant participe à la quête de l'affect chez le lecteur, et l'isolement par le cadre contribue ici à l'ériger en symbole. Si le devoir a recours à ce type de photographie, en jouant ainsi sur les stéréotypes et l'affect à travers la mise en scène du rituel ou de la dévotion religieuse, il n'en va pas de même pour Libération, qui lui exclut la religion au bénéfice du débat. Considérée séparément, la photographie de Libération se caractérise d'abord par le texte qui l'accompagne. Sous le titre, le doigt pointé montre ou le ciel ou le mot « cherche », mais nous ramène, quoi qu'il arrive, au titre, et par là même au jeu de mots que l'on peut y distinguer. Le jeu sur la sonorité et l'homophonie des mots « voix » V-O-I-X et « voix » V-O-I-E n'est possible que par et grâce à l'image et l'imaginaire qu'elle appelle. Le doigt pointé vers le ciel montre nécessairement la voie à suivre. Ainsi, le titre même de l'exemplaire, par la proximité qu'il établit avec l'image, l'emmène dans une dimension symbolique qui, dans le contexte de la publication, peut être également une dimension religieuse, car c'est bien l'islam qui cherche sa voie, V-O-I-X. Mais ce doigt pointé vers le ciel pourrait également bien faire écho au doigt de Dieu communément pointé vers le bas, vers les hommes. J'aimerais quand même préciser également ici qu'aujourd'hui, le doigt pointé vers le ciel est le signe de ralliement de l'œil. Mais que si je me souviens bien, et je le dis de mémoire, je crois que l'œil a été créé en octobre 2006, donc beaucoup plus tard, après la publication de cette photo. On peut donc dire que ces deux photographies de Libération et du Devoir travaillent à l'évocation du phénomène religieux, mais de deux différentes manières. Le Devoir assume pleinement le renvoi au culte et au rituel. Un peu à la manière de ce jeune garçon brandissant un Coran plus grand que lui au-dessus de sa tête, il affiche sans détour la mise en scène de la croyance religieuse. Tout au contraire, Libération joue sur les mots, joue sur les symboles et propose au lecteur une interprétation religieuse que ces derniers peuvent ne pas voir ou refuser de considérer. La religion est donc bel et bien représentée dans les deux quotidiens, mais le journal français de 2006 se caractérise par une forme de détachement, presque de refus de la représentation. De façon plus générale, l'analyse que j'ai menée m'a conduit à une certitude, celle que les deux journaux francophones traitent différemment la même information, en tout cas à cette époque-là. Alors une analyse globale, puis comparée de l'ensemble des photographies, m'a permis de dégager d'autres récurrences, comme la présence du feu ou de symboles religieux tels que la chéchia, le voile, le turban ou encore le Coran. Ces signes ont fait l'objet d'une analyse dans le livre qui m'a amenée à une autre découverte. Certes, les deux quotidiens mettent en scène des objets de la culture musulmane, mais seul le quotidien québécois publie des photographies où la religion est directement représentée. Si les deux quotidiens ont donc publié en 2006 le même nombre d'images, ils ne l'ont pas fait de la même manière et pas non plus dans le même but. Donc j'ai choisi par ailleurs de compléter cette étude avec une analyse périphérique composée de l'étude des titres et des sous-titres de chacun des articles, l'étude des intervenants et des journalistes et l'analyse des éditoriaux. Donc si l'analyse quantitative est le plus souvent suivie d'une analyse qualitative, il est plutôt rare que celle-ci se penche sur le choix des auteurs et notamment de leur présentation par les quotidiens. Pourtant, la notoriété dont bénéficient certains journalistes, présence médiatique fréquente, compétences reconnues, etc., peut augmenter de façon conséquente l'intérêt des lecteurs. Il reste que les chroniqueurs, les éditorialistes et les correspondants ne sont pas les seuls à écrire dans les journaux, et les textes de professionnels de la presse côtoient ceux de lecteurs ou de spécialistes qui ont fait la démarche d'aller vers le journal ou qui ont été sollicités par ce dernier. S'interroger sur l'identité de celui qui écrit, c'est donc se demander qui je lis, et même qui ai-je envie de lire. Avec la starification de certains journalistes, publier un article signé d'un nom connu peut dès lors correspondre à une démarche de type publicitaire, vendre plus grâce à la popularité de l'auteur. C'est pourquoi je me suis employée à dresser la liste des différents journalistes et intervenants qui participent tout au long du mois de février 2006 au débat sur l'affaire des caricatures de Mahomet. Une fois cette liste établie, attribuer aux différents auteurs leur statut professionnel originel m'est apparu comme un moyen efficace de souligner leur éventuelle renommée et surtout la légitimité de chacun d'entre eux à traiter d'un sujet autant controversé. Alors 103 signatures ont été recensées de l'ensemble des articles de Libération traitant des caricatures. Plusieurs appartiennent à des célébrités, comme Serge Juli, cofondateur et directeur de Libération de 1973 à 2006, ou encore Tariq Ramadan, l'islamologue controversé. D'autres correspondent à celles d'inconnus qui donnent parfois leur nom ou préfèrent signer de manière symbolique, par exemple « Islam bleu, blanc, rouge ». Après une première lecture, on remarque que certains auteurs, pour la plupart journalistes, sont à l'origine de plusieurs articles. Alors à cet égard, Catherine Corollaire en publie 7, Anne-Françoise Hiver et Pierre Marcel 5, Christophe Boltanski, Marc Semaux et Albert Algoud en publient 3. De l'AFP proviennent 8 articles, de l'agence Reuters 2. Ces journalistes qui signent plusieurs articles sont pour certains d'entre eux étroitement liés au sujet qu'ils traitent. Donc par exemple, Catherine Corollaire est alors l'une des journalistes chargées de la rubrique « Immigration et intégration » de Libération. Donc, dans cette perspective, on est en droit de considérer qu'elle traite ici d'un de ses sujets de prédilection. Dans la même veine, on sait que Daniel Schneiderman est intéressé par l'analyse des images télévisuelles et qu'il associe à son travail de chroniqueur des médias à Libération celui de présentateur de l'émission « Arrêt sur image ». Ainsi, la spécialisation d'un côté, la renommée de l'autre, contribue à donner aux articles de ces journalistes une importance particulière qui tient dans le rapport établi entre l'auteur et le lecteur. Les habitués de l'émission « Arrêt sur image » auront tendance à aller lire l'article de Daniel Schneiderman dans l'espoir, même inconscient, de retrouver quelque chose qu'ils connaissent, et les lecteurs assidus reconnaîtront en Catherine Corollaire la spécialiste. Compte tenu du statut médiatique de Tariq Ramadan, un article signé de sa main ne peut guère passer inaperçu dans un journal de gauche comme Libération. Le professeur et théologien a déjà à l'époque ses détracteurs et le débat autour de sa personne et de son discours est en vogue depuis 2004. Pour autant, Libération n'en fait nullement état dans sa présentation. Je cite la présentation de Tariq Ramadan, « professeur invité à l'Université d'Oxford, St. Anthony's College et senior research à la Locahi Foundation ». Donc c'est en professeur qu'il est présenté au lecteur et non pas en tant qu'intellectuel réputé au centre de polémique. C'est donc le statut professionnel qui importe. 15 intervenants extérieurs étant de fait ainsi présentés et du même coup leur article légitimé. On relève à cet égard 3 articles qui sont signés par des professeurs, 4 par des écrivains dont 2 sont également directeurs de recherche à l'université, 2 sont signés par des avocats, 2 autres par des sociologues, un autre encore par un philosophe. Signe de plus un ancien rédacteur en chef, un journaliste de France Soir et le président et secrétaire général de Reporters sans frontières. Dans les faits, ce n'est pas tant la personne qui constitue l'intérêt de l'article que le point de vue orienté et assumé qu'autorise sa position professionnelle. Certes, comparer l'avis d'un avocat à celui d'un sociologue ou de tout autre universitaire ouvre le débat à d'autres horizons. Mais surtout, le recours à des auteurs extérieurs au monde journalistique contribue à la mise en valeur de l'information par la promesse d'un regard plus pointu et orienté. On en a eu une petite idée avec une des interventions d'hier. Pour ce qui est du devoir, on dénombre 78 signatures en provenance d'agences de presse, de journalistes, de lecteurs, de professeurs et d'autres spécialistes. On distingue la signature de 4 agences de presse différentes et au total, c'est 39 fois que l'une d'elles est citée. Alors cet important recours aux agences de presse laisse entendre que le journal souffre d'un nombre insuffisant de correspondants, mais il révèle tout autant un intérêt marqué pour l'information internationale. Professeur au département des communications de l'Université du Québec à Montréal, Antoine Char rapporte ainsi à ce propos que Le Devoir, je cite, a toujours retroussé ses manches pour couvrir les événements internationaux. Alors de fait, on retrouve au cours du mois de février 19 fois la signature de l'AFP, 14, celle de l'agence Reuters, 5 fois l'agence Presse. La Presse canadienne signe un article. Et en ce qui les concerne, Libération co-signe avec Le Devoir 2 articles et le journal français Le Monde 1. Alors manifestement, cet emploi récurrent des agences de presse par le journal découle du désir de pluralité des points de vue et de la volonté de traiter au mieux l'information à l'international. Sur un total de 78 articles, un tiers, donc 26, sont signés ou co-signés par des agences de presse. Sur les deux tiers restants, donc 52 articles, 8 seulement sont signés par des journalistes, 20 par des lecteurs et le reste par des collaborateurs, correspondants ou spécialistes extérieurs. Ce sont ces derniers qui nous intéressent. 10 intervenants extérieurs ont signé de fait un ou plusieurs articles pour Le Devoir. Alors j'ai pu inventorier un responsable de l'information internationale à la radio, un politicien spécialiste en coopération internationale, un écrivain, un directeur de journal, un avocat, deux professeurs d'université, l'un de journalisme, l'autre de théologie, une étudiante de maîtrise, un délégué de la mosquée de Paris et un journaliste de radio. De ces collaborateurs occasionnels, trois d'entre eux reviennent à quelques reprises. Jean-Claude Leclerc, qui est professeur de journalisme à l'Université de Montréal, va signer 3 articles. Le politicien Gérard Latulippe, 2. Et Soyeb Benkeh, l'ancien mufti de Marseille et délégué de la mosquée de Paris, en signe 2. Dans le premier cas, il s'agit d'un article qu'il signe de son nom. Et dans le second, c'est un entretien. Alors, à voir l'ensemble des signataires, on est frappé par l'absence de journalistes qui seraient véritablement des spécialistes de la question. Les seuls professionnels de la presse qui publient plus d'un article au cours de ce mois de février 2006 sont Serge Truffaut, qui est l'éditorialiste du Devoir, et Claire-André Cauchy, Alexandre Shields, qui sont tous deux affectés à la section des informations générales. Ainsi, par le biais des différentes agences dont il use fréquemment, le journal Le Devoir livre sur la crise des caricatures un point de vue avant tout international. Certes, ce recours lui permet de compléter une vision plus globale, plus locale, et de légitimer un certain nombre d'articles, mais il témoigne également d'un manque de correspondants. Durant le mois de février 2006, 3 seulement interviennent sur les caricatures de Mahomet depuis Paris, Québec et Ottawa. Alors l'analyse de la mise en valeur de l'information à travers les auteurs des articles de Libération et du Devoir permet de constater des divergences quant au statut et à la popularité de ces derniers. On peut identifier des différences importantes, notamment lorsqu'il s'agit pour le journal de présenter un intervenant extérieur au journal. Les divergences surgissent dans la manière avec laquelle ils sont présentés. Qu'il s'agisse de Libération ou du Devoir, les intervenants extérieurs ont vu joindre à leur nom une petite fiche de présentation rédigée par le journal. La comparaison de ces présentations est éloquente. Pour Libération, c'est le métier qui prime, le premier mot de la présentation étant presque toujours le nom de la profession. Écrivain, directeur de, professeur à l'université de, ex-rédacteur en chef, etc. Par la suite, il arrive que la nationalité de l'auteur soit précisée. Écrivain turc, écrivain et universitaire tunisien. Ce qui n'est jamais le cas pour Le Devoir. On constate également que contrairement au journal québécois qui ne présente pas d'article de sociologue au cours du mois de février, Libération, lui, en publie 2. Partant de ces observations, on peut poser l'hypothèse d'une dimension sociale du débat qui serait mis en avant alors que la dimension religieuse n'aurait pas sa place dans la présentation des auteurs. De fait, l'appartenance religieuse n'est jamais mentionnée par le journal français, et ce, dans aucune des présentations. Bon, sur un échantillon aussi réduit, donc c'est un relevé sur 28 jours seulement, l'absence de mention de spécialistes de la religion de l'islam ou de professeurs de théologie, l'absence des mots même de religion et d'islam dans les informations livrées pourrait être attribuée au hasard. Il reste que la présentation de l'intellectuel musulman Tariq Ramadan suscite une interrogation. Au cours du mois de février 2006, en effet, on dénombre dans le journal Libération les signatures de 3 professeurs différents. Sur la présentation de 2 d'entre eux, on constate que la discipline qu'ils enseignent est indiquée. Sciences politiques pour l'un, économie pour l'autre. Or, lorsqu'il s'agit de présenter Tariq Ramadan, seul son statut, professeur, et ses universités d'appartenance sont mentionnées. Ainsi, et tout en favorisant l'approche sociologique et juridique, Libération semble évincer la question du religieux, tout au moins dans la présentation des journalistes et de leur champ de spécialisation. Du coup, on se demande si le fait de ne pas mentionner la question du religieux ne relève pas d'un choix politique du journal. Dans le cas du Devoir, on remarque qu'aucun sociologue ne signe d'article et que l'accent est porté sur 2 points, la dimension internationale et la religion. Plusieurs des intervenants sont présentés comme des spécialistes de l'information ou de la coopération internationale. En ce qui a trait à la dimension religieuse, trois présentations trouvent leur légitimité par ce biais. Alors, la moins évidente concerne l'étudiante, Julie Paquette, dont l'article se justifie par le fait que son, je cite, son mémoire porte sur l'affaire Salman Rushdie. Pierre-René Côté, pour sa part, est professeur d'exégèse et membre de la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Du fait de la présentation de l'auteur, le lecteur sait déjà que l'article a une chance d'être orienté vers la question religieuse. Le dernier exemple n'est pas le moindre. Denis Duchesne est journaliste à CKA FM, Québec, converti à l'islam depuis juin 2003. Donc ça, c'est la présentation du journal. Donc, dans le cadre de notre analyse, cette dernière présentation est un peu plus éloquente. C'est parce que l'auteur de cet article est musulman que son article est légitime. Il est introduit de manière à représenter un point de vue, celui des croyants, et même davantage, celui d'un converti. Pour conclure, si la crise des caricatures de Mahomet de 2006 a bel et bien entraîné chacun des quotidiens à s'interroger sur la question, sur des questions de religion, la représentation de cette dernière ne s'est pas opérée de la même manière et a constitué une indication majeure de sa place dans les deux pays. Le quotidien Le Devoir a favorisé la dimension religieuse de la crise, contrairement à son voisin français, Libération, qui mettait en avant l'aspect plus polémique et la question de la liberté d'expression. On peut constater à travers la présentation des auteurs que Libération repoussait encore la dimension religieuse que présentait le débat pour valoriser un aspect plus social de la crise, voire juridique. À l'opposé, le journal québécois présentait ses intervenants en valorisant l'aspect religieux, mais aussi le point de vue extérieur et international que prenait la crise. Merci.
Merci beaucoup.
Mon nom est Martin Meunier de l'Université d'Ottawa. J'ai beaucoup aimé votre présentation, mais j'ai des questions peut-être d'ordre méthodologique un peu à vous poser. D'abord, dans la comparaison entre Libération et Le Devoir, il me semble que c'est comparé à des entités très différentes dans les moyens de l'un par rapport à l'autre. Et j'ai l'impression que, d'ailleurs, vous le dites vous-même, c'est-à-dire ça vient biaiser d'une certaine façon le regard que vous avez pu prendre de l'un à l'autre. Mais bien sûr, là, on ne peut pas inventer un journal au Québec qui serait comparable. Alors, on prend ce qui existe. Mais ça reste qu'il me semble que là, il y a une différence tellement grande. Le Devoir est un petit journal qui vivote d'année en année. À chaque 10 ans, on croit qu'il va mourir. Libération est une institution. Les deux sont des institutions, mais il y en a une qui est plus précaire que l'autre. Alors, je crois que c'est difficile de comparer l'un avec l'autre. L'autre question que vous avez eue dans la présentation du Devoir, c'est son nationalisme. Et je crois que ça peut être intéressant aussi pour comprendre la différence entre Libération, qui est beaucoup plus versée dans la question sociale, que Le Devoir, qui, oui, est très proche de la social-démocratie, mais a également l'option de l'indépendance du Québec et, on pourrait dire, de la mise à l'avant du nationalisme. Et dans le traitement de ce que vous avez analysé, il me semble que ça aurait pu, sinon expliquer, du moins atténuer ou rendre compte de certaines différences. Également, j'aimerais vous entendre à savoir est-ce que la presse aurait pu être une bonne comparaison. Ce n'est pas un journal social-démocrate, mais surtout depuis son tournant, la presse n'a plus de version papier, a un tournant maintenant sur iPad, et tous les journalistes vous le diront, la presse perd en texte, mais gagne en photo pour... les gens de communication et pour les chercheurs de demain, c'est formidable. Pour les lecteurs, c'est un peu moins intéressant. Là, il y a, je crois, une surenchère de photos. J'aimerais vous entendre à cet effet.
Alors, merci pour ces précisions. Alors, en effet, la comparaison Libération-Devoir, forcément, je me suis posé la question au départ. J'aimerais rajouter également que dans le cadre de ma thèse, je continue dans cette voie-là et je travaille sur la représentation de la démission du pape à travers 4 journaux cette fois. Donc, j'ai inclus en plus dans mon analyse le journal La Presse et le journal Le Monde pour la France. Alors, je me suis posé cette question à l'époque pour la rédaction de mon livre. Et la réponse que j'ai trouvée, c'est que en termes de quantité d'articles et en termes de quantité de photos, Le Devoir n'est pas derrière Libération et publie, et là, dans le cadre de ma présentation, je l'ai mentionné, on publie 30 photos des deux côtés. Libération a publié 30 photographies traitant des caricatures de Mahomet, Le Devoir également. Alors, si ça vous intéresse, j'ai les chiffres exacts, même en termes de ce que j'ai appelé les items d'information. Donc, j'y inclus les articles, les photographies, les caricatures aussi, ce que j'ai pas travaillé dans le livre, mais les caricatures de Garnotte. Il en a fait autant que dans le journal Libération. Donc voilà, ça m'a permis en effet de comparer ces deux journaux. Il m'a semblé qu'en termes d'équivalent, Libération et Le Devoir étaient les plus à même de se répondre. En effet, l'histoire du national. Alors pour revenir sur l'idée du nationalisme du Devoir, je me suis un petit peu. Alors évidemment, je l'ai traité dans mon livre. Il y a tout un chapitre qui est consacré à l'histoire des deux journaux et notamment à l'histoire des deux journaux en lien avec ce que c'est que la religion, parce qu'on peut pas passer à côté du fait que Le Devoir a été un journal catholique pendant très longtemps et que donc politiquement il y avait un parti pris. Mais il m'a semblé que le fait de traiter un sujet extérieur à la France ou au Québec, c'est-à-dire la publication des caricatures au Danemark, me permettait une triangulation qui me permettait cette comparaison. Évidemment, la condamnation de Charlie Hebdo en France biaise un peu cette question-là. Mais ça ne s'est pas passé pendant le mois de février 2006, si je ne me trompe pas. Donc ça m'a permis de traiter des articles qui, justement, ne traitaient pas de ce qui se passait sur le sol français avec Charlie Hebdo. C'est le cas pour ma thèse également avec la démission du pape. Et enfin, donc, vous me parlez de la presse. Alors voilà, ma réponse, c'est que ça, je viens de l'intégrer à mon nouveau corpus. Dès que j'aurai des résultats, je reviendrai.
Alors, c'est pas une question, c'est une remarque. En fait, ça m'intéressait cette question des gestuelles, en fait, des représentations, des réactions, des manifestations publiques après les caricatures et cette dynamique de médiatisation des gestuelles qu'on retrouve en fait dans toute médiatisation des manifestations publiques. Et ça m'intéressait d'autant plus que j'ai travaillé sur la gestuelle du crayon brandi après les attentats de Charlie Hebdo et on retrouve un peu ces mêmes dynamiques où on va privilégier une photographie des pancartes et une photographie des gestuelles manifestantes. Et je trouvais que la une de Libération avec le doigt pointé répondait faisait écho dans un certain sens au crayon brandi et à ces représentations qui étaient intéressantes dans les unes. Voilà.
Oui, alors juste pour compléter, c'est vrai que prendre Libération quand on veut traiter des images, c'est pas non plus anodin, puisque même au niveau des titres, Libération s'inscrit quand même dans une tradition où il s'amuse avec ça. Et en effet, il y a énormément d'échos. Et bon, là, je travaille sur le pape et il y a aussi toute une forme d'esthétisation et de mise en avant de ces dynamiques que vous évoquez. Oui.
Juste une remarque aussi en termes de méthodologie, il me semblerait intéressant pour votre travail, pour votre démarche, de poser la question du choix de l'image, parce que vous avez parlé du rôle des auteurs, de leur profil, et souvent dans un journal, je ne connais pas Le Devoir, mais ce qui est à mon avis vraisemblable pour Libération, c'est que l'auteur de l'article, du papier, n'est pas celui qui non seulement ne choisit pas le titre, mais qui en plus ne choisit pas la photo, surtout quand elle est en couverture. Et que en termes de travail journalistique et de traitement médiatique, ce type de dichotomie, de choix de la photo et de la rédaction de l'article entraîne souvent en interne des débats, voire parfois des débats très houleux, l'un disant à l'autre, écoute, c'est pas vraiment ce que j'ai dit, c'est pas vraiment le sens des témoignages, et l'autre disant au rédacteur, écoute, c'est la une, ça porte le sujet, et voilà. On prend ce parti pris. Donc ça me semblerait, dans votre méthodologie de travail, assez intéressant aussi, à la fois dans le rapport à l'image, qu'est-ce qui se joue dans le choix d'une image, mais aussi dans le traitement, dans la présentation d'un titre de presse, quoi.
Bien sûr, absolument. Et je rajouterais même que c'est d'où l'intérêt, je crois, de prendre les images séparément des textes, en fait, je pense, dans un premier temps, et ensuite, évidemment, de les mettre en écho avec ce qui est inscrit. Et encore, je rajouterais également que la place, c'est pour ça que je vous ai mis le tableau au début, la place et la surface qu'occupe l'image dans le journal, quand il s'agit évidemment d'une version papier, est importante. Par exemple, là, l'image de l'enfant avec le Coran au-dessus de la tête prenait deux pages entière du journal Le Devoir. Donc évidemment, ça rentre en compte.
Une dernière intervention.
En fait, là, vous cachez un petit peu, me semble, mais c'est bien une manche blanche, là, que c'est... Donc, à mon avis, vous pouvez commenter aussi sur le doigt, la main, mais le vêtement et la couleur du vêtement.
Oui,
voilà.
Une petite fourrure, mais de la même façon que l'enfant est habillé en... C'est une tenue de sport. Donc, ça voilà. Nous apporte
pas... Enfin, là, je veux dire, pas juste le doigt, mais si c'est une double page, donc on voit très bien, les lecteurs pouvaient très bien voir que c'était le Coran, alors. Parce que vous disiez qu'on ne pouvait pas bien le voir, ceux qui ont en main le journal pouvaient le voir, que c'était...
Voilà. Que déjà, il faut pouvoir le lire. Voilà.
Et ce que je voulais vous demander, c'est au niveau des légendes, c'est juste que parce que les panneaux d'ici, on voyait essentiellement des panneaux en anglais dans un journal québécois, donc ça veut dire, en fait, les légendes disaient que c'était dans quelle ville qu'il y avait eu ces manifestations. Et la dernière chose, si dans votre thèse, j'espère que vous mettrez quel a été l'espace consacré quand il y a eu les bombes incendiaires dans le journal... Charlie, et quelle place a été donnée par Le Devoir sur ces événements-là? Merci.
Merci. Alors oui, en effet, les commentaires qui sont mis en légende, donc là, évidemment, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais je les ai également analysés dans le cadre de mon livre pour les mettre en écho avec les images et voir également quelles sont les informations qui sont retransmises par ces légendes. C'est-à-dire, est-ce qu'on nous parle du lieu? Des fois, on a des photographies qui, si la légende n'est pas prise en compte, on se rend compte que ce sont des photographies qui remontent à plusieurs années, qui sont des photographies d'archives. Donc il y a ça aussi, la question de se dire, quand on lit un journal, si on ne lit pas la légende, on peut être surpris. Donc voilà, évidemment, tout ça, ça demande du temps et malheureusement, mais si vous voulez en parler, on peut après.